Le programme va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Prague dans notre émission du samedi, une émission présentée par Anna Kubiszta. Elle sera consacrée aujourd'hui aux rubriques culturelles, littéraires et linguistiques. Jeudi 26 janvier, à la Maison Municipale, l'Orchestre Symphonique de Prague interprétait deux œuvres de musique française, Les Nuits d'été d'Hector Berlioz et Les Trois Petites Liturgies pour la Présence Divine d'Olivier Messiaen. Or, dans cette dernière, la part belle était faite à un instrument rare et souvent inconnu du grand public que Radio Prague vous propose de découvrir.
Culture sans frontières.
Le son que vous entendez n'est pas celui d'une soucoupe volante survolant le ciel pragois, mais celui d'un instrument très peu connu nommé les ondes Martenot, instrument star de l'œuvre d'Olivier Messiaen, joué jeudi dernier par l'Orchestre Symphonique de Prague, qui à cet effet avait fait appel à Bruno Perrault, virtuose français de cet instrument. Jean-Sébastien Létang l'a rencontré.
Bonjour monsieur Bruno Perrault, donc vous êtes musicien, vous jouez d'un instrument assez rare qu'on appelle les ondes Martenot. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que sont les ondes Martenot ?
Alors les ondes Martenot, c'est un instrument électronique qui a été inventé en 1928 par Maurice Martenot. Cela faisait suite à ses amusements, on va dire, qu'il faisait durant la Première Guerre mondiale, justement, avec les postes de radio de l'armée. Et il avait découvert avec les nouvelles technologies, notamment les lampes triodes, qu'on pouvait faire des sons, et obtenir des sons très purs. Il s'est dit qu'il pouvait faire un instrument avec ça. Étant déjà musicien et ingénieur, il a effectivement pris 10 ans il a consacré 10 ans de sa vie à élaborer le premier prototype, et puis il a fait cette présentation à l'Opéra de Paris en avril 1928, j'oublie la date exacte, et c'était un succès. Donc il a continué, en fait, il a fabriqué en tout 7 modèles, 7 générations, et là ce soir je viens de jouer sur la dernière génération, le 7e modèle.
Et comment ça marche ?
Il y a un oscillateur en fait à l'intérieur, donc c'est ce qui génère le son. Sinon, pour la partie technique, il y a un clavier. C'est un clavier qui ressemble à un clavier de piano, mais qui n'en est pas un, puisqu'on ne peut pas jouer d'accord. Donc c'est un clavier monodique. Par contre, le clavier est flottant, il est suspendu. Donc on peut avoir un vibrato personnel. C'est ce qui donne déjà ce côté musical. Et il ne faut pas oublier que Maurice Martenot était violoncelliste, donc le vibrato, il connaissait. Ensuite, il y a un deuxième jeu latéral le long du clavier. Il s'agit du jeu à la bague, et donc c'est une bague qu'on enfile dans le deuxième doigt de la main droite, et avec lequel on parcourt le clavier. Donc il y a des petits repères, on a toutes les notes, l'équivalent des touches blanches et des touches noires. Il faut beaucoup se fier à l'oreille, et on peut glisser donc d'une note à l'autre. Donc on obtient ainsi un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus glissé, un petit peu comme la voix humaine. Et les sons, on obtient les sons grâce à la main gauche, grâce à ce qu'on appelle la touche d'intensité. C'est une touche dynamique qui permet d'obtenir, on va dire, de partir de rien jusqu'au son le plus fortissimo. Donc avec toute la gamme qu'il peut y avoir entre, y compris les portato, les gatto, staccato, enfin voilà, les lourés, les marcato, tout se fait avec le deuxième doigt de la main gauche. Et ensuite, on a encore toute une série de haut-parleurs, qui sont au nombre de 4, un haut-parleur principal comme votre chaîne stéréo. Et puis une résonance acoustique avec des ressorts en bronze, et un haut-parleur qu'on appelle aussi diffuseur métallique. Donc c'est une cymbale de tam-tam suspendue et vissée à un moteur. Donc on obtient des sons métalliques, on peut tous les mélanger à volonté, on peut les jouer séparément, et on a encore toute une série de timbres qui s'apparentent, je dirais, aux instruments d'orchestre. On a un timbre creux comme la clarinette, un timbre honte comme le timbre flûte, un timbre nasillard comme le timbre du hautbois, etc. Voilà, on peut tous les mélanger à volonté, les jouer séparément, donc ce qui donne une grande richesse sonore.
D'accord, donc j'imagine que c'est un instrument assez rare. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens qui jouent des ondes Martenot, et quel style de musique, quel compositeur on peut jouer avec ça ?
Alors malheureusement, c'est un instrument encore assez rare, parce que jusqu'à présent, la production a été faite uniquement par Maurice Martenot, donc jusqu'en 1981, date de sa mort accidentelle. Puis elle s'est un petit peu continuée quelques années, jusqu'en 1989, par l'intermédiaire de son assistant, puis ensuite la production s'est arrêtée. Ensuite, il y a eu un instrument de fabriqué qui s'appelle l'Ondea, qui marche très bien. Il y a eu quelques modèles de fabriqué, certains ondistes jouent dessus. Esthétiquement, il s'éloigne un petit peu de Long Martineau, mais les sons s'apparentent, la technique du jeu est exactement la même, donc voilà, on peut jouer le répertoire Martineau sur l'Ondea. Là, actuellement, je suis en train d'attendre, enfin, il y a déjà une série fabriquée, en fabrication, du nouvel instrument qui sera une réédition du 7e modèle, donc une copie exacte extérieure avec des composants de toute nouvelle génération à l'intérieur. Enfin, tout va être fiabilisé, c'est une merveille. Donc voilà, j'aurai cette année, je pense, cet instrument. Et donc, il y a une continuation de la facture instrumentale des ondes Martineau. Maintenant, nous ne sommes pas très nombreux. On va dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes quand même une quarantaine dans le monde. Peut-être un petit peu plus, encore une dizaine de plus avec les gens qui jouent moins, mais une quarantaine de professionnels, c'est ouais, déjà pas mal. Et on va dire que c'est un petit peu, cela vient du fait qu'il n'y a jamais eu beaucoup d'instruments fabriqués. Donc voilà, donc c'était délicat d'en trouver, donc délicat d'en jouer, etc. Je veux dire, de manière professionnelle. À part ça, tous les répertoires sont permis. Il y a le répertoire écrit classique, on va dire, de 1930 à maintenant. Hein, donc ça va de Millau, Honegger, en passant par Muraille, Boulez, et puis Messiaen, évidemment, Jolivet, donc aussi de la musique spectrale, etc. Et puis de la musique de film, de la musique rock. J'ai des collègues qui jouent beaucoup en variété, rock, etc. J'ai moi-même joué avec le groupe Radiohead. Johnny Greenwood de Radiohead a composé une partition pour moi et pour ma collègue Valérie, avec qui je joue souvent, qui s'appelle Smear. Donc c'est pour deux ondes Martineau solo et Sinfonietta. Et la partition a été créée par nous-mêmes et a été mise sur disque. Et ensuite, fait partie d'une musique de film qui s'appelle There Will Be Blood, avec Daniel Day-Lewis. J'ai oublié le nom du réalisateur. Voilà. Donc, j'ai aussi récemment enregistré un DVD de rock jazz, avec un groupe qui s'appelle Tetsuo, de Pau. Donc, un excellent groupe. Ils sont deux d'habitude, mais là, c'était en big band. Donc, on était 11, avec plein d'instruments hétéroclites. C'est un instrument qui se mélange très bien, aussi bien avec les instruments classiques, seuls, ou avec des instruments comme la vielle à roue, ou la clarinette basse, il y avait encore du violon électrique, etc. Enfin, il y avait plein de choses pour Tetsuo, c'était vraiment très bien. On peut le trouver en DVD, dans le commerce.
D'accord, et à votre avis, qu'est-ce qui fait la force d'un tel instrument, puisque c'est un instrument électronique, mais très vieux, puisqu'il date des années 30. Alors, qu'est-ce qui fait sa force par rapport aux instruments tels que les synthétiseurs modernes et tout ce qu'on peut faire avec la technique dont on dispose aujourd'hui?
Alors, mon avis est qu'un instrument ne remplace pas un autre. C'est-à-dire que l'onde Martineau est née en 1928, il n'était pas le premier instrument électronique à être fabriqué. On fabrique des instruments électroniques, ou en tout cas des instruments qui utilisent l'électricité, depuis, je crois, 1890. Enfin, le premier, ça doit être une ampoule de laquelle on approchait les mains, système Theremin. Ensuite, il y a eu Theremin, mais il y a eu énormément d'autres instruments, le telharmonium, enfin vraiment, c'est... Et puis, l'équivalent du Martineau allemand, le trautonium, qui était aussi un instrument formidable et qui, malheureusement, n'a pas perduré, puisque sa situation était encore pire que Long Martineau, puisque là, il y avait un seul grand professionnel qui en a joué toute sa vie, mais une fois qu'il est mort, c'était plus ou moins terminé. Donc, et c'est dommage, parce que c'est un instrument fantastique. Donc, toute cette génération d'instruments vintage, qu'on dirait, moi, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Je pense aussi au Theremin, qui est refabriqué, notamment par certains thereministes. Donc, il y a des modèles plus... qui rajeunissent un peu le look de l'instrument, pratiquement genre VTT. Enfin, c'est assez hallucinant. Il y a des modèles sobres, bon marché, puis des modèles plus complexes. N'importe qui peut se lancer, voilà. L'onde Martineau, pour l'instant, c'est plus difficile, mais avec la nouvelle génération, ce sera plus simple de s'en procurer. Les vrais synthétiseurs sont apparus à partir des années 50 aux États-Unis, donc Moog, mais beaucoup d'autres, notamment pour des musiques de films, comme je pense à Planète Interdite. Il y a des synthétiseurs qui ont été fabriqués exprès pour ce film, pour faire une musique extraterrestre. J'ai le disque à la maison, c'est absolument fantastique. On peut pas copier ça avec l'onde Martineau. Autant qu'avec les synthés, on ne peut pas copier l'onde Martineau. Donc d'un côté, il y a les synthés qui ont aussi, eux, évolué, puisque parmi les joueurs de synthé, il y a les puristes, avec leur synthé vintage, Moog, avec de vrais sons analogiques, etc. Et puis, il y a ceux qui utilisent, on va dire, des synthés que l'on peut trouver dans le commerce, tout simplement. L'onde Martineau n'est pas là pour imiter ni un instrument classique. Hein, je parlais tout à l'heure des timbres qui ressemblent à la clarinette ou à la flûte, mais c'est pas une imitation, c'est une évocation. C'est pour donner différentes puissances au son, différentes clartés. Je crois que tous ces instruments ont leur place. Il y a un compositeur italien qui s'appelle Luciano Chailly qui a écrit une partition dans laquelle il y a du synthé et de l'onde marteneau. Landowski aussi a écrit des pièces avec synthé et onde marteneau. Le synthé n'a pas remplacé l'onde marteneau et ne le remplacera jamais, puisque l'onde marteneau, et c'est ça sa grande force, c'est pas tellement dans les timbres que l'on peut mélanger à volonté, mais qui sont limités, c'est dans sa puissance expressive, surtout. Parce que le geste musical est un geste purement instrumental qui s'apprend dans un conservatoire, qui peut s'apprendre tout seul aussi, mais on peut apprendre la guitare et le piano tout seul, mais si on veut progresser, il faut aller plus loin. Maintenant, tout le monde a le droit de jouer, évidemment.
Et autrement, comment s'est passée votre coopération avec l'Orchestre Symphonique de Prague?
Alors, très bien, je trouve que ces gens sont absolument charmants, l'accueil a été excellent, ce sont des gens très chaleureux. Le chef était très exigeant, et ça j'aime bien, parce que ça permet d'aller dans ses derniers retranchements, hein, c'est-à-dire on arrive, on a déjà joué la pièce, mais rien n'est jamais acquis. C'est un nouvel orchestre, c'est un nouveau chef, c'est une nouvelle salle, donc de toute façon on recommence tout à zéro. Même si on a la pièce dans les doigts, les tempi ne sont pas les mêmes, la dynamique n'est pas la même, les exigences du chef ne sont pas les mêmes, donc on n'a aucune certitude. Donc c'est nouveau à chaque fois. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de la musique dite classique, c'est qu'elle n'est jamais la même. Vous avez la même partition, mais après, ce qu'il en sort n'est jamais le même. Donc voilà, j'ai vraiment adoré travailler ici, et puis je trouvais que le public était très chaleureux aussi, très curieux.
Voilà, après cette rubrique culturelle consacrée aux ondes marteneau dont nous parlait l'ondiste Bruno Perrault, virtuose de cet instrument rare, on continue avec une de vos rubriques préférées, le tchèque du bout de la langue, présenté et proposé par Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem, milovníkům češtiny Radia Praha.
Vous connaissez tous la chanson d'Edith Piaf intitulée La vie en rose, l'une des plus belles déclarations d'amour jamais écrites. Il existe également une version tchèque intitulée Elle,
Jako růže,
interprétée par Svetlana Nalepkova et signée Jiří Dědeček. Traduire en français le titre d'une adaptation tchèque d'une chanson française constitue certes un non-sens, néanmoins, ce titre signifie comme une rose. Toutefois, plus qu'à la fleur, c'est à la couleur, le rose,
rougeova,
et aux quelques expressions qui s'y rattachent que nous allons nous intéresser dans cette émission.
Nade mnou svou mocí tajemnou a mně se hrdlo úží.
Voir la vie en rose, comme le chante Svetlana Nalepkova ou l'éternelle amoureuse Edith Piaf, qui a popularisé l'expression, signifie tout simplement être heureux, joyeux, tout voir de manière positive. Le rose est une couleur douce et apaisante. Le fait de voir la vie en rose implique donc que l'on est dans un état d'esprit optimiste. Comme la belle fleur a la bonne odeur qui sert à charmer la personne aimée, la couleur rose jouit ainsi d'une réputation flatteuse. Et comme les Français et bien d'autres encore dans le monde, les Tchèques aussi peuvent voir la vie en rose. Toutefois, la locution tchèque, sans doute la plus utilisée, est quelque peu différente. Il s'agit en effet littéralement de regarder le monde avec des lunettes roses.
Dívat se na svět růžovými brýlemi.
Ces lunettes roses,
růžové brýle,
on l'aura compris, permettent donc de voir la vie en rose et de se sentir tout simplement heureux. Il existe ici une petite nuance. Avec la locution,
Vidět něco růžově.
Littéralement, voir quelque chose en rose. Ici, il s'agit plutôt d'envisager les choses de la vie avec un certain optimisme, une certaine confiance. Ces choses de la vie, qu'il s'agisse d'un projet à réaliser ou par exemple d'un examen à passer, d'un instant à vivre, devraient bien se passer. Le résultat final devrait être le résultat attendu, celui qui était espéré initialement.
Ty noci lásky, jak to říct, ty žal a smutek rušíš mahem, už vím, co je to umřít blahem, to je štěstí, a co chtít víc. Má mě zkrátka v zajetí, když se ptá, jak je ti, zašeptá.
Mais comme beaucoup de belles choses, et on l'entend et le ressent dans la chanson, qu'elle soit dans sa version tchèque ou française, le rose est aussi une couleur fragile et éphémère. Ainsi donc, sans nécessairement voir la vie ou le monde en noir,
dívat se na svět černě,
ou en gris,
šedivě,
on peut néanmoins ne pas la voir en rose. C'est ainsi qu'on entend parfois les Tchèques dire
« Nevidím to moc růžově »,
soit littéralement « je ne vois pas ça trop ou très en rose ». Dans ce cas-là, il s'agit surtout d'exprimer une certaine forme de doute quant au degré de réussite de ce que l'on espère. Sans être totalement pessimiste, il y a dans cette expression une retenue manifeste de l'enthousiasme. En résumé, cela veut dire que l'on n'est pas vraiment optimiste. En français, il existe également une locution intéressante selon laquelle « ce n'est pas rose ». Il existe même plusieurs variantes avec, par exemple, « ce n'est pas toujours rose »,« ce n'est pas rose tous les jours »,« tout n'est pas rose » ou « tout n'est pas si rose » ou encore « ce n'est pas rose non plus ». Quelle que soit la formule choisie, il s'agit de faire comprendre, selon la formule consacrée, que « tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Les Tchèques disposent également de différents moyens pour exprimer cette idée, comme par exemple
« Není vše tak růžové, jak se zdá ».
Littéralement, « tout n'est pas aussi rose que cela semble l'être », ou plus simplement
« Není všechno růžové ».«
Tout n'est pas rose » ou encore
« Situace není růžová ».
La situation n'est pas rose, comme dans la chanson de Camille Strzyrawka intitulée
« Černá růže,
la rose noire ».
Cesty dlouhý nechci spát. Jsou divný touhy mát.
Je pose une rose noire sur la table, du brouillard dans les yeux. Je traîne seul dans la nuit noire. La route est longue, je ne veux pas dormir. Les désirs sont étranges, je t'aime.
Nikdo není dlouhokrát. Jsou noci dlouhý, cestou králu se mi zdá. Jsou jako dávný odčená.
Voilà, et c'est après avoir ôté nos lunettes roses pour déposer une rose noire sur une table vide que s'achève ce tchèque du bout de la langue consacré donc à cette belle couleur qu'est le rose, mais rappelons-le, une couleur fragile comme la fleur. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Remettez quand même vos lunettes roses.
Dívejte se na svět růžovými brýlemi.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
On continue avec la dernière rubrique du samedi, le progrès technique qui s'accélère pratiquement dans tous les domaines des activités humaines est arrivé aussi sur le marché du livre. Le lecteur actuel peut choisir entre le livre classique et le livre numérique. Václav Richter se penche dans la rubrique littéraire du jour sur les possibilités, les défis et les risques des nouveaux moyens de lecture.
Rencontre littéraire. L'année 2011 a apporté une petite révolution sur le marché du livre tchèque. Si l'apparition des premiers livres électroniques offre de nouvelles possibilités aux éditeurs, elle soulève toutefois de nombreuses interrogations. Le livre électronique est-il un rival dangereux du livre classique? Dans quelle mesure ce nouveau moyen peut-il changer les habitudes des lecteurs et le marché de l'édition en général? Ce nouveau moyen technique devrait-il porter un autre nom? Le livre classique, le livre imprimé, le livre de papier est-il menacé de disparition? Qu'est-ce que le livre électronique ou numérique, e-book en anglais, qui est appelé aussi livrel ou e-livre en français? Il s'agit d'un fichier comprenant le texte d'un livre sous forme numérique. Le texte peut être lu à l'aide d'une liseuse, c'est-à-dire un appareil électronique qui permet de le lire sans l'usage d'un ordinateur. Ce nouveau moyen de diffusion des textes s'impose peu à peu sur le marché et est de plus en plus recherché par le lecteur. Jiří Vlček, fondateur de la société palmknihy.cz, qui se spécialise dans la vente des livres numériques, estime qu'avant 2016, cette nouvelle production pourrait détenir 50% de l'ensemble du marché des livres. Bien que nous ne manquions pas de preuves pour appuyer un tel pronostic, nous sommes témoins de l'entrée des livrels sur le marché et il est en outre fort probable que ce n'est que le début d'un processus qui finira par modifier substantiellement les habitudes des lecteurs. Jiří Vlček met à l'appui de son pronostic optimiste quelques données des États-Unis.
Les statistiques des États-Unis démontrent qu'un pourcentage important des lecteurs lisent des livres électroniques. De 15 à 20% de la population utilise des liseuses, ce qui est un chiffre énorme. Sur l'ensemble du marché, les livres électroniques ont représenté en 2010 8%. En 2011, la part de ces livres a probablement déjà atteint 20 à 25%. C'est donc une augmentation considérable qui revêt une importance incontestable pour l'ensemble du marché.
La maison d'édition palmknihy.cz a été fondée en 1999, c'est-à-dire à l'époque où le livre électronique n'était qu'une vision futuriste et où les lecteurs de ce genre de livre n'existaient pas. L'éditeur Jiří Vlček et son associé Jiří Bodlák étaient même obligés pendant les premières 7 années d'existence de leur maison de distribuer les livres gratuitement. Jiří Vlček évoque ces années préhistoriques.
Nous travaillons surtout pour nous et parce que cela nous amusait. Cette activité n'est devenue un business rentable que vers la fin de l'année 2010. Dans la première phase, ce n'était qu'un hobby project, une distraction et rien d'autre.
Pendant 500 ans, c'est-à-dire depuis la formidable invention de Gutenberg, le livre imprimé a été l'un des piliers de la culture mondiale et de la civilisation humaine. Cette position privilégiée du livre classique n'a été ébranlée que par l'ordinateur. Risque-t-il aujourd'hui d'être complètement détrôné? Le livre numérique est-il en passe de devenir son rival sérieux? Jiří Vlček ne pense pas que ce sera une rivalité sans merci. Il pense que ces deux moyens de lecture coexisteront, comme cela est arrivé par exemple, entre le théâtre et le cinéma. Il rappelle que le théâtre, qui est considéré souvent comme une forme culturelle plus élevée que le cinéma, n'a pas cependant disparu à l'époque de l'engouement pour le film, devenu un nouveau moyen de distraction. Il constate par ailleurs que le théâtre, le cinéma et même la télévision et la vidéo sont des moyens qui se complètent bien malgré l'existence d'une certaine forme de concurrence. Et cela est également valable, selon Jiří Vlček, pour le rapport entre le livre classique et le livre numérique.
Je pense qu'il y a quelque part une concurrence entre le papier et le livre électronique, surtout dans la littérature de consommation courante, que vous achetez par exemple pour tuer le temps quand vous voyagez en train. Dans ces situations, le livre électronique revêt une grande importance. Par contre, quand il s'agit de textes d'une valeur durable et intemporelle, je préfère moi-même le livre de papier.
Martin Lippert, le cofondateur de la société Reading.cz qui se spécialise dans la vente des livres électroniques en République tchèque, refuse l'idée que le livre électronique est la même chose que le livre imprimé. Il insiste au contraire sur le caractère inédit de ce moyen de lecture.
Ta tištěná je úplně jiné médium a má jiné vlastnosti, to znamená, že když grafici...
Le livre imprimé est un moyen complètement différent et ses qualités sont même tout à fait différentes. Les graphistes poussent un cri d'alarme et affirment que la présentation graphique des livres imprimés qui est parvenue à la perfection sera balayée par le livre électronique. Je pense que cela est vrai dans une certaine mesure, mais l'approche des textes est bien différente dans ces deux cas.
Kam do jisté míry ano, v tuhletu chvilku prostě ten přístup je jiný.
Et Martin Lippert d'ajouter que ces deux modes de lecture sont incomparables, notamment en raison du fait que c'est le lecteur du livre électronique lui-même qui choisit le caractère d'impression de son livre. Cet avis est nuancé par l'éditeur des livres électroniques, Michael Rydwal.
Les grandes exigences des professionnels du design graphique vis-à-vis des livres électroniques sont dues à la dénomination livrel qui suggère qu'il s'agit de livres. En réalité, ce ne sont pas des livres. Le problème réside peut-être dans le fait qu'il ne s'agit pas réellement de livres et que ce n'est qu'une métaphore avec laquelle on travaille.
Michal Rydwal constate aussi que la qualité n'est pas toujours importante pour le consommateur qui se contente souvent, par exemple, d'enregistrements MP3 et d'enregistrements vidéo de mauvaise qualité, notamment en raison du fait qu'ils sont disponibles ou faciles à obtenir. Jiří Vlček réplique cependant que la qualité du livre électronique n'est pas pire que celle du livre classique, mais qu'elle est différente.
Vous dites que le livre électronique est de mauvaise qualité, mais en réalité, il propose aux consommateurs des possibilités différentes. Dans le livre normal, vous n'arrivez pas à agrandir les caractères pour pouvoir lire sans problème. Et ce détail trahit le fait que derrière tout cela, il y a une technologie tout à fait différente. Pour le consommateur courant qui doit lire le livre en papier avec des lunettes ou une loupe, le livre électronique apporte une qualité supérieure, mais c'est une qualité d'une autre dimension, une qualité incomparable qui apporte au lecteur une plus grande satisfaction parce qu'il peut enfin lire confortablement.
Toujours est-il que le livre numérique est un moyen qui n'a pas encore eu le temps de montrer toutes ses capacités. Il traverse actuellement la période de maladie infantile et cache, sans doute, un certain potentiel d'évolution. Martin Lippert insiste aussi sur les possibilités d'évolution du livre numérique en le comparant à la télévision. Il rappelle que les premiers programmes télévisés, leur style et même les gestes des personnages de petit écran, ressemblaient à ceux du théâtre. La télévision a eu besoin de beaucoup de temps pour se débarrasser de ce style théâtral, pour trouver sa propre voix, ses propres moyens d'expression et son propre milieu culturel.
J'aimerais dire que le livrel n'est commercialisé que depuis un an et demi et que le livre imprimé existe depuis 500 ans. Alors quand nous aurons eu la même histoire derrière nous, tous les problèmes du livre électronique seront réglés.
C'est la fin de cette émission du samedi. Vous avez pu découvrir à cette occasion les ondes Marteneau. Et puis évidemment, vous avez eu droit à votre cours de tchèque, comme une semaine sur deux. Et puis en littérature, nous avons évidemment parlé du livre numérique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez dès dimanche l'émission musicale de Radio Prague, qui sera consacrée au Kuzmich Orchestra. Tous ces sujets, vous pouvez les retrouver sur notre site internet sous forme de podcast, sous forme d'articles ou en streaming. C'est au www.radio.cz/fr. Cette émission a été proposée et présentée par Anna Kubishta. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy. Thank you.
Radio Praga continúa.